Bienvenue à la French Connection, épisode 132, qui est le dernier épisode officiel 2019, et ma foi, c'était une grosse année. Je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde!
Avec Vincent.
Salut tout le monde!
Et Patrick.
Hello!
Yay! Donc, commençons avec les shameless plugs. Finalement, la bière sociale est déplacée en janvier, c'est le Québec sec. Le 28, 29, 30 janvier, FIC 2020 à Lille. 6 février, premier anniversaire de Damien à moins 30. Oui. 7 avril, Chahuisec présente la journée cybersécurité, une demi-journée de conférence et de CTF. Chaque demi-journée. Le 10 mars, c'est sécurité de l'information, événement des affaires, dans lequel je crois que des faces connues vont être présentes. Le 11 et 12 mars, Cloud and Cyber Security Expo à Londres. 26 mars, le colloque cybersécurité fuite des données qui va être à Lévis, dans lequel je sais que l'ACPES est en tout cas représentant en quelque sorte.
Ouais.
Oui. 26 mars, Patrick a décidé qu'on allait faire un podcast live.
Yes.
comme l'an dernier, finalement, comme l'an dernier, comme en 2019, en début 2019, quand on a fêté notre 100e épisode. 10 avril, Global Hack. Ça, c'est Damien qui m'a copié trop d'affaires, fait que je vais le passer parce que je suis en train de décrocher. 16 au 26 avril, c'est la semaine numérique dans laquelle le 20 avril, Secure est de retour pour sa deuxième année. Damien et Patrick présenteront des sujets fort intéressants. Et les restants de ce que Damien m'a poussé, je vais l'abandonner pour le moment parce qu'on va s'endormir et on passe aux vraies nouvelles. Commençons avec une nouvelle de Damien là, qui parle justement du groupe Maze.
Oui, tout à fait. Maze, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un groupe qui est connu pour son ransomware, donc ce logiciel de rançonnage qui a touché énormément d'entreprises de partout dans le monde. Je vais vous prendre des entreprises américaines comme la bière Bush, mais aussi les pâtes Beretta, sans compter, on pense, présume, des centaines d'autres entreprises. Alors comment ? Pourquoi je voulais vous en parler ? Eh bien tout simplement, ces braves garçons et filles, parce que c'est une bande mixte, a décidé, fin décembre, de diffuser sur un site internet dédié toutes les entreprises qu'ils ont infiltrées et rançonnées. Mais ils vont pas diffuser n'importe qui. Ils diffusent en fait toutes les entreprises qui n'ont pas voulu leur répondre et qui n'ont pas voulu payer. Et donc du coup, comme on dit, c'est le double effet RGPD. Souvenez-vous, le podcast vous en parle depuis mai 2018 de ce double effet. Souvenez-vous, il y a même des gens qui disaient « Ouais, oh, tout ça, c'est du fond, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Dommage. Là maintenant, il est tellement visible qu'il va être compliqué, messieurs, en tout cas ceux qui ne pensaient que ça n'existait pas, de vous voiler la face. Parce que Maze, donc, très clairement, ont diffusé sur leur site internet, le premier jour, 8 sites internet piratés, dont ils ont volé l'intégralité des informations. Parce que c'est là où la grosse nouveauté apparaît aussi, c'est que c'est enfin officiel, parce que des pirates le disent. Après avoir infiltré les serveurs, ils volent le contenu et le chiffre. Donc le premier effet, c'est de demander aux entreprises de payer pour pouvoir récupérer leurs données, leurs données qui ont été chiffrées. Et si elles ne le font pas, ils réclament ensuite de l'argent pour dire vous ne payez pas, on va tout diffuser. Vous ne souhaitez pas qu'on diffuse, payez. Et la petite nuance, elle est là. Ils me l'ont dit parce que je les ai contactés. Ils m'ont répondu. J'ai réussi à les joindre parce que qu'on le veuille ou non, ils sont pas compliqués à joindre. Croyez-moi. Et ils me l'ont dit très clairement. Ils n'ont pas voulu payer, ils payeront deux fois. Ils payeront la première fois pour que les données soient déchiffrées et la deuxième fois pour qu'on ne diffuse pas les données. Et ils ont commencé à en diffuser, soyons très clairs. Je prends l'exemple des produits alimentaires Beretta, une marque internationale très connue. Ils ont diffusé plus de 2,5 gigas de données internes. Le plus terrible, c'est que dans ces données internes, je trouve que c'est du véritable terrorisme numérique aujourd'hui. C'est vraiment plus... Je donne le terme, c'est du terrorisme numérique. Pourquoi ? Parce que certes, ils ont piégé l'entreprise. Après tout, l'entreprise avait qu'à se protéger. On n'arrête pas d'en parler. Certes, ils ont piégé les données de l'entreprise et son moyen de fonctionnement. Ça commence à devenir gênant parce que en bloquant la fabrication, on bloque aussi les employés qui ne seront peut-être pas payés. Et là, ce que j'ai trouvé terrible, voire même dégueulasse, et pardon du terme, ils ont diffusé l'intégralité des informations de l'administration de cette entreprise. Et dans les données que j'ai pu constater, parce que ils me les ont montrées, ils me les ont même diffusées ensuite, ils me donnent même maintenant les entreprises qu'ils ont piégées, et pour me dire, ben voilà, on les a piégées. Dans une semaine, on va les diffuser s'ils ne payent pas. Et donc, pour revenir sur cette entreprise italienne, il y a toute l'administration. Alors, il y a les factures, certes. Il y a les données de vente, ok. Mais le plus terrible, il y a aussi toutes les données des employés. Et je trouve ça totalement dégueulasse parce qu'on se retrouve avec des documents internes avec les noms, les prénoms, les photos, les adresses mail, les numéros de téléphone. En Italie, d'après ce que j'ai pu comprendre, les personnes immigrées qui viennent dans le pays, ils doivent aussi fournir toute la documentation sur les enfants. Et je les ai vus de mes yeux vus. Les mecs de mail, ils ont diffusé les informations de papa et de maman dans lequel on a les photos des enfants, on a les identités des enfants. Voilà. Et je trouve ça terrible. Terrible parce que d'abord, il y a eu infiltration d'une entreprise qui n'a pas fait attention, qui n'écoute pas, qui se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Merde, ce sont des grosses boîtes. Ce sont des gens qui ont des millions, qui payent 2 francs 6 sous leurs employés et qui aujourd'hui, en plus, ont mis en danger leurs employés. Parce que les mecs de Maze, ils me l'ont dit, pardon du terme, ils s'en battent les couilles, très clairement, de tout ce qu'ils veulent et de tout ce qu'ils diffusent. Le problème, c'est que, imaginez, c'est nous, vous, toi, moi, on diffuse mes informations personnelles, plus celles de ma famille, plus celles de mes enfants, parce que l'entreprise n'a pas été capable de les sécuriser. Terrible. Et Maze va comme un bulldozer. Ce sont des monstres numériques. Et donc, dans les conversations que j'ai eues avec eux, ah ben, ils me disent très clairement, hein, les gens qui ne répondent pas, eh bien, c'est au lieu de payer $500 par machine, ça va être doublé. Souvenez-vous, on en a parlé dans un podcast il y a 7-8 mois d'un autre groupe qui faisait comme ça exactement. Sauf que Maze, lui, très clairement, on le dit, hein, tu payes pas, tu me réponds pas, tes informations, je vais les diffuser. Donc voilà, je n'ai aucun conseil, on n'a aucun conseil à vous donner. On a beau être des experts de nos parties, hein, Patrick, Nicolas, Vincent sont des experts qui sont ultra reconnus. Moi, je suis expert dans ma section. Ok, quand vous avez Patrick, Nicolas, Vincent qui vous expliquent certains détails, quand ils vous regardent dans les yeux en vous disant la cybersécurité, sans déconner, mettez du budget, mettez des humains. Quand moi, vous allez me rencontrer maintenant, ici ou ailleurs, quand je vous parle du Darknet, du Black Market, de ces gens qui ne vous prennent que pour des porte-monnaie sur pattes, écoutez-nous, sans déconner. Parce que je crains que Maze va continuer. Il va continuer en faisant des petits, parce que le business a l'air d'être florissant. Et surtout, dites-vous que ils vous auront. Je suis impressionné malheureusement par leur capacité. Je finirai sur ça, sur ce groupe. Je sais pas, m'accaparer tout le temps. Vous verrez nos liens sur le site sécurité.fm du podcast. Les mecs sont capables de vous sortir tous les serveurs, toutes les machines, qui, quoi, comment, où. Et encore certains qui ont voulu faire du social engineering. Venez plutôt au Hackfest pour apprendre ce que c'est que le social engineering. Ou demandez-nous, on viendra vous montrer 2-3 petits détails. Parce que j'ai encore des gens qui ont voulu faire les malins, qui les ont contactés par les chats, hein, les chats service après-vente de Maze, où les mecs, en 2 cuillères à peau, ils avaient doublé le chiffrement, ils avaient doublé le prix, et ils avaient en plus joué avec 2-3 éléments informatiques qu'ils ont diffusés. Donc par pitié, ne jouez pas au con, parce qu'en face, on n'a plus affaire à des petits internautes, ou sans être péjoratif, du petit pirate. On a clairement affaire à la Camorra du numérique.
Ouais, c'est du crime organisé rendu là.
Non, mais Patrick a complètement raison. On est dans du crime organisé parce que là, on a clairement ceux qui ponnent, hein, ceux qui vont infiltrer, ceux qui vont s'occuper du logiciel de rançonnage. Le service après-vente, les mecs, je ne sais pas combien ils sont derrière, mais ils répondent nuit et jour. Moi, toutes les questions que j'ai posées, ils m'ont tout le temps répondu nuit et jour. C'est impressionnant. Ils ont en plus obligatoirement un service après-vente. Ils ont obligatoirement aussi un... Enfin, voilà. On a vraiment un vrai crime organisé avec des call centers, avec les techniciens, avec les marketeurs, avec aussi les développeurs, parce que qu'on le veuille ou non, il faut développer. Pardon hein, de dire ça, mais leur site internet qu'ils ont créé, putain, ils sont beaux. C'est ça qui est fou.
Puis, tu dirais-tu qu'on s'en va vers la nouvelle tendance de crypto locker, whatever, qui est la rançon de diffuser les données? C'est-tu ça la nouvelle tendance ou c'est un cas isolé selon toi?
Bah, tu sais, on en parle sur le podcast. Il suffit de reprendre les archives pour ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'en parle depuis 1 an et demi sur le podcast. J'en parle aussi depuis le mai 2019. Souvenez-vous, même avant le RGPD, vous savez, le Règlement Général des Données Personnelles. Je vous parlais déjà de ces pirates qui infiltraient, chiffraient ou volaient et faisaient chanter les entreprises. C'est devenu une tendance qui est exponentiel et qui va exploser. Parce que au départ, il fallait quand même avoir des connaissances, il fallait quand même avoir une équipe entre celui qui connaît les failles, celui qui va infiltrer, celui qui va donner, celui qui va analyser aussi les informations. C'est bien beau de tout voler. Mais quand je vois que les mecs de Maze ont été capables de trier les noms, les prénoms des employés et de faire par petits dossiers, enfin voilà, ça demande quand même, comme tu le disais, on est clairement dans du crime organisé avec chacun sa mission. On est dans l'agence tout risque, hein, de la malveillance. Et voilà, non, ça va malheureusement exploser parce que qu'il soit indien, brésilien, français, canadien, qu'il soit chinois, nord-coréen ou qui vous voulez, non, ukrainien, russe, enfin voilà, c'est un vrai business. Mais maintenant, en plus, on a la preuve qu'une fois qu'ils ont infiltré, ils vont pas chiffrer tout de suite. Ils vont voler. Pourquoi ils vont se gêner? Après tout, hein, comme on dit ici, ils se fabriquent des mandats.
Effectivement, mais c'est la professionnalisation du malveillant qui est très, très grave. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le constate, mais là, c'est encore pire que pire. C'est vraiment rendu un business en soi qui vient extraire de l'argent aux autres business qui sont en place. Ça, c'est juste sans fin. Puis les entreprises qui ont malheureusement négligé pendant tant d'années la protection de leurs infrastructures, maintenant vont devoir payer toutes ces années qu'on voulait économiser en ne mettant pas les dollars et le temps pour le faire, ben, les malveillants vont venir les taxer pour tout cet argent qu'ils auraient dû dépenser.
Ça, c'est pour nos amis européens. Ici, au Canada, il vient d'y avoir une affaire d'un grand centre hospitalier qui vient d'avouer que, ah oui, ils ont payé, en fait, leur rançonnaire. Ben, ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils n'ont plus le choix de le dire. Parce que dites-vous que si vous ne payez pas, vous avez été rançonné, vous allez vous faire avoir. Parce que les mecs vont diffuser les informations. Plus terrible, si vous êtes une entreprise de santé ou non, comme ils trient les informations, s'ils trouvent des informations dédiées à vos produits, vos innovations, ils vont les revendre à des concurrents ou à des gens qui vont s'en servir pour faire de la contrefaçon. Il y a des données dedans, Desjardins, l'affaire Desjardins. Pardon, mais en France, moi je dis que c'est du pipi de Sansonnet. On a un gars, il a pris des clés USB, il a copié, il y avait certainement des gens. Mais depuis combien de temps ça existe avec le black market? Depuis combien de temps ça existe avec les pirates informatiques? Le problème, c'est qu'enlevez vos œillères. Ok, il y a plein d'experts qui sont des professionnels de la revue de presse où ils lisent des articles diffusés à droite à gauche, souvent diffusés par des communiqués de presse. Mais malheureusement, écoutez aussi les gens qui sont sur le terrain. Parce que les gens sur le terrain, quand ils vous disent « voilà ce qu'on vient de voir et voilà ce qu'on a vu », et je prends l'exemple de Patrick, Nicolas, Vincent, moi, peu importe, si on le voit, dites-vous que même si c'est un signal faible, vous êtes clairement dans la merde.
Non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu dis le code Desjardins, depuis quand ça existe, le nombre de contacts qu'on a qui nous prouvent que ça existe, la vente de la donnée interne des banques au Canada se fait depuis quoi? 5-10 ans à peu près? Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. La seule affaire, c'est que c'est public aujourd'hui, puis que là, on se réveille. Là. C'est ça qui est triste.
Moi, je vois un petit effet pervers.
On se réveille avec...
Moi, je suis... Ah,
Pardon, Vincent, vas-y.
Je voulais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais, Damien, avec les pauvres immigrants qui doivent fournir de l'information supplémentaire, comme, ainsi que des photos de leur famille, leurs enfants. Il y a un autre petit élément aussi que je trouve... je trouve ça extrêmement pervers. Il y a un autre petit élément pervers que je trouve aussi avec ce type de business malveillante là, ça serait un compétiteur qui voudrait faire crouler justement sa compétition pour pouvoir prendre des meilleures parts de marché ou une petite vendetta personnelle là, ça peut il y a un paquet d'effets collatéraux extrêmement pervers là qui peuvent survenir de tout ça.
On en a déjà eu de ça à Québec, tu sais, si vous vous rappelez, là, je pense que c'est 2-3 ans, le cas de la personne qui avait quitté son emploi, changé de job et avait fait du déni de service sur son ancien emploi parce qu'il n'aimait pas son boss. Évidemment, il s'est fait arrêter après une couple de semaines. Ça s'est passé, je pense, dans le coin de Trois-Rivières. C'est le genre de choses qui arrivent. Là, imagine avec le concept de, justement des rançons et autres, faire ça frappe encore plus que juste un petit déni de service.
Ben, surtout qu'en plus, les outils aujourd'hui pour fabriquer des ransomware, vous tapez dans Google... Je ne donnerai pas les moyens, etc. Mais on n'a même pas besoin d'être dans le darknet. Juste un moteur de recherche, quelques temps de recherche, et on peut trouver des outils qui vont permettre de fabriquer un ransomware. Alors, ils ne seront pas génialissimes, mais justement, quelqu'un qui veut se venger, il n'a pas besoin de se fatiguer. Hein, c'est ça qui est terrible.
Oui, exact. Là. C'est rendu au niveau script kiddies. Là. Download, click, fini.
Et sur ça, on va quand même changer de nouvelle, parce qu'on l'a étiré comme beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là. Puis je pense qu'on, de toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler d'autres fois parce que j'ai l'impression que les nouvelles de chez Maze n'arrêteront pas de circuler. On va passer à une autre nouvelle de Damien. où il y a des pirates dédiés au crédit qui auraient volé 85 gigas de données appartenant à une société de crédit.
Ouais, alors justement, ça tombe bien parce que Patrick, en plus, m'avait tendu la perche en parlant de Desjardins, etc. Bon, j'ai pas dit que c'était Desjardins. Calmons-nous. Non, alors plus sérieusement, c'est une société américaine, ID Recheck. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ils se sont spécialisés dans les outils et la possibilité de vérifier son niveau de crédit. Alors, pour toi, ami européen, toi, ami français, qui voudrait rejoindre ce sublissime pays qu'est le Québec, il va falloir que tu apprennes un truc, c'est que quand tu as ici une banque, tu as une carte de débit et une carte de crédit. Et la carte de crédit, c'est un peu comme à l'école, plus ta note est meilleure et moins ton crédit sera cher. Grosso modo, hein, j'ai vraiment réduit, je vous cache pas, ça fait 3 semaines que je suis ici, j'ai encore mal au crâne tellement j'ai pas tout compris. Toujours est-il que cette société, ID Recheck, s'est fait voler 85 gigas de données. Je les ai vus, hein. Je vais être très clair avec vous. J'ai cherché, etc., ce que c'était d'abord. Eh bien, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont demandé à voir leur niveau, donc cette note de crédit, pour pouvoir acheter une automobile. Donc, dans ces données, j'ai les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses, le numéro de crédit, les informations de crédit, les voitures choisies, etc., etc. Ce qui est très bizarre, c'est que vous, les experts qu'on voit partout dans les médias, la télé, etc., qui adorez lire les revues de presse pour ensuite expliquer aux médias « voilà les dangers du web », c'est bizarre. Je ne vois jamais ce genre d'information qui je considère être plus importante pour l'internaute, pour le téléspectateur qui se dit « merde, le pirate, il est sous mes fesses ». Et là, le problème, je ne vous cache pas que je me sens d'autant plus maintenant, aujourd'hui, confronté par ça, parce que quand je vois le nombre de données que la banque, l'assureur ou les sites internet dédiés à ce genre de choses ont sur ma vie et donc sur ma femme et donc prochainement sur mes enfants, et je me dis que tout simplement parce qu'un site internet, comme disait Patrick tout à l'heure, n'a pas mis un petit peu de dollars sur la table pour se sécuriser, et que croyez-moi, le pirate, une fois qu'il a aspiré, c'est plus une bouche qu'il a lui, hein, le pirate, hein, une fois qu'il vous a aspiré, hein, croyez-moi, hein, là on n'est plus du tout sur YouPorn, hein, on est ailleurs, hein, on est dans un autre monde, voilà. Ils ont tout volé. Le problème, c'est que ces données-là, non seulement ont été aspirées, mais une fois que le pirate a tout utilisé, il a tout diffusé. Welcome! Ça va être sympathique pour l'OSINT, ça va être sympathique pour le social engineering, ça va être sympathique quand on reçoit un coup de téléphone d'une société ou de, soi-disant, le service des impôts qui vous dit « Ah, vous êtes un nouvel arrivant, ah, vous n'avez pas bien rempli vos papiers, redonnez-nous tout, dont votre numéro de sécurité sociale. » Et là, on va saigner et du nez et du cul.
C'est oui, ça doit faire assez mal, tout ça. j'aime bien les images et bref, mes sympathies à tous ceux qui signent de tous ces endroits. Une nouvelle suivante. Le Canada aurait été buitier à 85%.
Ben oui, ça continue dans le même sujet qu'on discute avec Damien. Le Canada, dans la dernière année, 2019, aurait été participé à des leaks de données. On est très bons participants à ça cette année, avec 28 millions de Canadiens qui auraient été victimes de vols de données. Donc, plus ou moins là, 85% finalement du pays, de tous les citoyens qui auraient subi au moins un vol de données ou ayant été dans une fuite de données. Là, évidemment, on parle de Desjardins, Capital One, le récent de la semaine passée qu'on vient de parler, le Life Labs avec toutes les infos médicales. Je veux dire, même personnellement, je pense que cette année, j'ai été dans 3-5 breaches. Super. Je suis abonné à ça. Je peux en revendre si certains en veulent. Revendre, évidemment, l'accès à Equifax. Ça a l'air que ça a été aussi leur meilleure année de vente cette année, Equifax. Donc, ça fait une grosse année là-dessus. Ce qui est très malheureux, ben, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose encore pour améliorer ou changer quoi que ce soit là, avec les identités numériques ou, je sais pas, l'aide à l'entreprise pour mieux sécuriser les choses, même si on en parle, même si c'est public. On est encore dans un niveau d'éveil, si on peut dire. Là, on vient de recevoir la claque au visage et faut faire quelque chose. Donc, je pense que l'année 2020 va être assez incroyable sur notre podcast et sur les sujets associés à ça. Là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer.
toute façon, 2019 a été un warm-up pour 2020. Fait que si vous avez, cru que vous avez saigné du nez et de ailleurs en 2019, attendez-vous à saigner encore plus en 2020.
Je te coupe un peu, Patrick.
Oui, vas-y, coupe-moi. Vas-y.
Ouais, mais il a coupé son micro en même temps. Fait que je pense que il a fait ça avec toute l'intensité possible et imaginable.
Damien a fait un Damien. Il s'est coupé lui-même.
Pouf! Bon, de toute façon, enchaînons à la nouvelle suivante tant qu'à ça. Et on va parler du fait que tu mentionnais justement l'identité numérique. Justin Trudeau aurait fait une bonne référence à ce genre de choses-là. Et c'est aussi un sujet au Québec qui est en très forte discussion.
Oui, exact. Dans le fond, ce que je dis, c'est qu'il ne se passe rien. Puis cette semaine, ce qui était intéressant, ou qu'on croyait qu'il allait être intéressant plutôt, il y a eu des entrevues, dont une au FM 93 à Québec, avec Justin Trudeau, et où ce qui ont parlé justement du vol d'identité, les taxes Netflix, etc., et on mettra le lien justement dans les show notes. Vous irez écouter au moins les 3 à 5 premières minutes de l'entrevue. On a diffusé ça sur notre Facebook et à plusieurs autres places là, pour savoir ce que le monde en pensait. Puis ce qui en ressort, c'est que c'est vraiment triste et très awkward comme discussion parce qu'il n'y a rien que le premier ministre a dit. Il ne semblait pas connaître le dossier aucunement du vol d'identité, aucun plan. L'entrevue est vraiment... En tout cas, c'est triste. Ça finit mal l'année, ça part mal pour l'année prochaine. Si on n'a aucune idée au niveau fédéral de qu'est-ce qu'on va faire avec le vol d'identité, voire plus là, au niveau sécurité informatique, je pense que ça vaut, comme je dis, la peine d'aller écouter ces quelques minutes-là juste pour voir à quel point que va falloir que quelqu'un prennent le règne là-dessus parce qu'on est en très mauvaise position.
Allez, Damien, est-ce que tu reprends la balle ou tu l'as échappé au complet en coupant ton micro?
Non, c'est bon. Non, c'était très intéressant. Justement, je l'ai écouté, cette interview, etc. Et c'était pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Patrick, avec une société qui annonce que, voilà, en faisant le regroupement des fuites de données cette année, c'est un peu plus de 24 millions. Ils auraient dû aussi nous écouter, le podcast. Vous vous souvenez, il y a 7-8 mois où on a parlé de ces 150 millions de logins et mots de passe que j'avais découvert dans le black market. Ben, je vous propose de rajouter 150 plus 24.
Aïe.
Ah, c'est pas fini. De toute façon, c'était un réchauffement 2019 pour ce genre de choses-là. Et tant qu'à parler de choses de comptes qui ont été touchés, on a quelque chose d'un peu plus croustillant et plus réel, dans lequel au Québec, on a eu des cellulaires de personnalités publiques qui ont été espionnées-ish par un grand champion de l'informatique et un grand génie.
Un génie!
Oh boy. Ouais, ça, on a été déçus. De l'article en tant que tel, parce que ça a été indiqué comment les génies sont très forts et blablabla, peuvent espionner les personnes. C'est malheureusement pas le cas. Là. C'est juste une question de mauvais mot de passe, techniquement. On n'a pas le détail, mais ça pointe évidemment vers là. En fait, c'est comme un fappening numéro 2 qui est apparu, mais qui n'a pas de photo reliée. Mais la personne a décidé d'espionner des personnalités principalement québécoises, des femmes, sur leur téléphone cellulaire, lire les messages, les photos, etc. Donc, on n'a pas le détail exact de l'attaque, comment elle a été effectuée, mais ça semble énormément à un guess de password très mauvais, soit directement sur leur compte ou sur le backup iCloud, là, comme ça avait été fait en 2014 aux États-Unis. Je pense qu'il y a 2 ou 3 noms là qui ont été sortis. Le reste, c'est des initiales du prénom et nom de famille. Donc, assez facile à guesser, malheureusement, de qui a été victime de tout ça. On espère qu'il y a eu de la sensibilisation auprès de ces personnes-là, mais ça revient encore une fois à la même chose pour monsieur et madame tout le monde. Les mots de passe, c'est le problème. C'est toujours les mots de passe trop faciles, les mauvaises règles de password trop complexe, etc., avec des changements trop rapides. Donc, par défaut, tout le monde met des mots de passe très bidons. Donc, vivement, les systèmes sans mots de passe qui s'en viennent là, d'ici quelques années avec WebButton et autres, parce qu'on va se retrouver toujours dans cette situation-là.
Éternellement dans le problème. toute façon, mais en tout cas, c'est un peu. En tout cas, bref, c'est une mauvaise couverture médiatique. Malheureusement, les vedettes ne prêchent pas par l'exemple dans la sélection de leur mot de passe, de toute apparence. Sans connaître plus, c'est probablement ça une des raisons. Donc,
un génie!
Ah, boy. Mais au moins, il a été arrêté, puis. On le dit, là, quand tu te fais arrêter pour une affaire de genre, t'es tout sauf un génie. Ouais.
Je vous invite, sans faire de publicité, après les fêtes, à aller jeter un petit œil sur mon blog. Je vais vous expliquer comment il a fait. Là, pour le moment, j'ai pu collecter 500 000. J'en dis pas plus.
Super, on en parlera dans un prochain podcast même.
Les occasions ne manqueront pas de toute façon. Passons à la nouvelle suivante de Damien qui... Ton Twitter connaît des problèmes sur la plateforme Android.
Oui, et j'ai perdu l'information. Youpi ! Non, au moment où on enregistre, en fait, c'est simple. Hein, on a reçu, toutes les personnes qui utilisent Twitter ont reçu une alerte en leur disant « Vite, changez l'application Twitter que vous auriez sur votre téléphone Android. On a eu un problème de fuite de données, mais tout va bien. On maîtrise. » Des génies.
En tout cas, Damien, de toute apparence, ne maîtrise pas bien son micro parce que ça fait une autre fois qu'il vient de disparaître en plein milieu d'une intervention. Coudonc, on va finir par arriver à quelque chose à un moment donné.
C'est pas facile d'avoir un laptop qui vient d'Europe. Ça a l'air, ça froze tout le temps au froid canadien.
Ouais, non, c'est pas adapté au climat du Québec, ce genre de petite bête-là. Bref, Damien, revenu, est-ce que est-ce que tu nous entends? On fait du live.
Non.
De toute apparence, non. Pouf, on vient de perdre la vidéo aussi. Bon, passons à la nouvelle suivante, finalement, qui est une nouvelle tout à fait beaucoup plus sympathique. Nouveau CTF BBS, qui est un peu promu par le Hackfest.
Ouais, je pense qu'on en a parlé rapidement il y a quelques semaines, mais en fait, un de nos personnes dans l'équipe de CTF roule un BBS, un vrai BBS là, des années 80 et 90, qu'on peut y accéder via page web, SSH, Telnet et autres. Et il a fait un CTF dessus, CTF en deux parties, un en challenge de hacking et un autre pour explorer les fondements, les applications à l'intérieur du BBS. Donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne et autres, super intéressant. Et c'est ça, pour mon propre plaisir personnel, je voulais apprendre une ou deux nouvelles technologies que je n'avais pas joué avec. Donc, j'ai lu là-dessus dans les dernières semaines et construit deux petits challenges super le fun dans le CTF partie hacking. Donc, si ça vous intéresse, le URL sera là. C'est un CTF qui dure pendant 30 jours. Je pense qu'il en reste une quinzaine. Il y a des prix super intéressants, donc allez voir ça, c'est super le fun.
Donc, ça compléterait les nouvelles. Là, on a un Damien qui est complètement sourd et qui nous regarde avec ses yeux de caribou maintenant québécois, à qui il est un peu perdu, donc il va connaître nos blagues une fois qu'il va écouter l'épisode monté. Sur ça, on termine l'épisode. Il va y avoir un épisode de recap qui va être enregistré dans les prochains jours, semaines, dans lequel on va revenir sur 2019, sur lequel ça a été une année tout à fait... funky au niveau de la sécurité. Joyeux temps des fêtes, messieurs.
Joyeux temps des fêtes à tout le monde.
Yeah. Bonnes vacances, profitez-en et on se revoit pour une année avec encore plus de brèches.
Changez vos mots de passe.